Que ce soit une famille, une tribu, un clan, un pays, une communauté se construit sur une histoire commune, ou un patrimoine commun, ou une culture commune. Une communauté, elle est faite de semblables, de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemblent. Et les membres d'une communauté vivent de manière presque animale leur proximité et la solidarité qui les lie. Au contraire, c'est avec des personnes, des individus totalement différents de nous, qui n'ont pas grand-chose en commun avec nous, que nous vivons en société.
Guillaume Natas, bonjour. On part donc aujourd'hui à la chasse aux vampires.
On part chez les vampires avec un Y.
Ah.
Bon, en fait, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que les vampires avec un I, c'est ces créatures mythologiques ou en tout cas littéraires qui sont plutôt européennes. Donc Transylvanie, Roumanie.
This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Dracula, the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day.
Les vampires avec un Y, c'est une communauté sous culture du goth, enfin une communauté vraiment très intéressante et très mystérieuse qui est née au début des années 90, en tout cas dans la forme qu'on connaît encore aujourd'hui, à New York, et qui est assez passionnante dans tout ce qu'elle représente et dans sa manière de communiquer, dans le fait qu'elle existe toujours aujourd'hui, qu'elle soit très mystérieuse, très secrète, et que son histoire soit parsemée d'anecdotes et de petites choses assez étonnantes.
On parle donc des vampires avec un Y.
Voilà, on parle des vampires avec un Y.
Donc on s'éloigne de Bram Stoker, on s'éloigne de l'histoire de Vlad Dracul.
Je connais pas Vlad Dracul.
Ah mais tu perds quelque chose.
C'est quoi ?
Vlad Dracul, c'était le grand Vovoïde de Valachie. Une de ses servantes, je crois, venait lui annoncer qu'elle était pour tous un enfant, lui ouvre le ventre pour voir. Un émissaire vient se présenter, sortir son turban, il lui fait couper la tête. Ses ministres, pendant un banquet, il les change tous et il les fait tous empaler pendant qu'ils bouffent avec les nouveaux. Ça met une bonne ambiance.
Ah oui, d'accord.
Et surtout, quelque chose de pas mal, pendant qu'ils faisaient la guerre, quand les Turcs sont arrivés une fois près d'une ville, eh ben, ils ont d'abord été surpris par l'odeur, et puis quand ils sont rentrés dans la ville, tout le monde était empalé. Tout le monde était empalé. Hommes, femmes, enfants. Et là, quand t'es en face de ça, tu te rends compte que t'as affaire à un ennemi qui ne lâchera rien.
Donc c'est lui qui a inspiré le nom de Dracula. Bon.
Vlad Dracul.
C'est d'accord, bah génial.
Donc on parle des vampires avec un Y. Y curieux d'ailleurs, parce que c'est né à New York, où il y a aussi un Y.
Et oui, c'est vrai, c'est rigolo.
Oui, ça fait
alors
un
c'était
lien.
Vraiment un moyen de se différencier, en fait, des vampires littéraires et des vampires européens.
Et pourquoi ?
Bah parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Cette sous-culture qui est assez mystérieuse donc débute dans les années 90, on n'en savait quasiment rien. Il y a vraiment à New York des caisses de sous-culture, de sous-culture, de sous-culture. Il se trouve qu'à Harlem se développe une réinterprétation du mythe du vampire tournée autour de la... du visuel de Blade, je sais pas si tu vois.
Ah, c'est aussi tard que ça, d'accord, c'est pendant Blade.
C'est Blade, c'est les inspirations viennent de Blade dans le côté esthétique, parce que c'est vraiment ce vampire bestial, un peu prédateur, vraiment dans ce côté-là, et du jeu de rôle, c'est-à-dire Vampire the Masquerade, qui est un jeu de rôle très populaire.
Ah bon.
Qui a beaucoup pris. Et il faut savoir que le jeu de rôle,
hein,
fonctionne très bien sur les geeks qu'on connaît et compagnie, mais aussi sur les gangsters. C'est-à-dire que dans les prisons, ça joue au jeu de rôle. Et donc, il s'est passé quelque chose où à un moment, il y a eu une espèce de fusion entre cet univers gothique et et des gangsters. Donc c'était pas vraiment les pires, c'était pas les dealers de crack et compagnie, mais c'est des mecs de Harlem, principalement des blacks et des portoricains.
Dans Blade, c'est Wesley Snipes qui joue le héros qui zigouille tout le monde avec des sabres, c'est ça. Je me souviens de ça, moi je me souviens d'un bain de sang qui coule de partout.
Ouais, dans tous les sens, et il t'envoie en enfer, et bon. Mais là, c'est un mythe un peu particulier. Alors en plus, les vampires veulent se détacher du côté raconté de Blade, tout en ayant embrassé l'esthétique, voilà.
Dans Blade, excuse-moi de t'interrompre encore, mais j'ai remarqué qu'en fait, au départ, les vampires, parce qu'ils quand même ils zigouillent des vampires, sont complètement intégrés à la société. C'est-à-dire qu'ils sont en boîte de nuit, des trucs comme ça. Enfin, je crois que la scène du départ, ils rentrent dans une boîte de nuit et ils zigouillent tout le monde qui se transforme en vampire.
Il y a des vampires. En fait, dans Blade, il y a des vampires dans la société et eux sont une caste particulière et ils se font la guerre. Enfin, en tout cas, pour le coup, là-dessus, c'est pas le plus important. C'est plus pour visualiser la gueule qu'ont les vampires avec un Y. Les vampires avec un Y, c'est tatouage, piercing, grand manteau noir. Donc il y a vraiment une inspiration gothique très forte, mais un peu moins, en tout cas, dans les prémices romantiques. Là où, voilà, ce sont des goths, notamment dans leur manière de faire, où ils sont dans la démonstration, mais en même temps dans la pudeur. Enfin, c'est une communauté qui tourne autour des codes gothiques, mais sur des types qui font 150 kilos, qui se battent et qui sont dans des ghettos. C'est quand Harlem a commencé à être nettoyé par le maire de New York...
De l'époque
Comment il s'appelle Giuliani.
A été maire, tu l'as dit, mais je sais pas.
Ouais, c'est lui qui a quand même bien nettoyé New York en termes de délinquance et compagnie. Il a nettoyé Harlem et puis il restait encore au fond une zone qui était encore un peu dégueulasse. Et là, est née cette sous-culture qui est en même temps une sous-culture de gangsters et en même temps une sous-culture de geeks. Et ça, c'est incroyable. Alors, voilà, ça, c'est comment c'est né. Moi, je découvre cette sous-culture un jour où ma copine me dit « Je vais me faire poser des crocs par Fazer Sébastien. » Alors là, je t'explique, c'était il y a 7 ou 8 ans.
Je t'interromps, c'est Fazer Sébastien, c'est quoi ?
Bah alors, j'y viens.
Mais ben oui.
Déjà, je comprends rien à ce qu'elle me dit. C'est-à-dire, là, je te fais là, le truc, « Je vais me faire poser des crocs par Fazer Sébastien. » Alors, je savais pas ce qu'elle allait bien pouvoir se faire poser par qui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et elle m'explique, voilà, Fazer Sébastien, c'est un vampire réel. Elle m'explique ça, je fais qu'est-ce que c'est que ça. Elle me dit bah oui, il y a toute une communauté, c'est les vampires. Moi à ce moment-là, j'avais aucune notion du Y et compagnie, j'avais jamais entendu parler de cette communauté. Et donc bien sûr, je me renseigne. J'étais un peu, j'avais arrêté déjà depuis un moment mes errances et hop, et je m'y refous à fond dedans. Et là, je retrouve une communauté à gratter. Et en plus, une communauté qui me parle, parce que moi, les milieux gothiques, les milieux un petit peu romantico, dark et compagnie, c'est des milieux que j'aime bien.
T'es gothique, toi ?
Je suis un peu gothique, moi.
Je suis un peu gothique quand j'étais pas habillé gothique.
Non, mais les gothiques, ils sont pas toujours habillés gothiques, tu vois.
Bah, comment tu sais qu'ils sont gothiques, alors ?
Bah, parce que tu le sais, quand tu reconnais certains traits de caractère, certaines
approches. Ah, c'est comme les francs-maçons, quand ils grattent la main.
Ils grattent la main, voilà.
Ah, t'es gothique, toi ?
Ouais. Toi, t'es franc-maçon ?
Non.
Bon.
Je suis même pas franc.
Non, ni maçon.
Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé, bon, il y a quand même un petit côté un petit peu princesse chez tous les gothiques, genre ah là là, nanana, bon. Chez les vampires new-yorkais, c'est pas du tout des princesses, c'est justement des mecs, mais alors qu'est-ce qu'ils font ? Et donc moi, je commence à me renseigner, je découvre donc Fazer Sébastien, qui a l'air d'être une entité extrêmement importante dans ce milieu-là, il se trouve en fait que c'est le créateur et le leader, et le mec qui a lancé tout ça à New York, ou en tout cas qui a tiré la communauté et qu'on a fait quelque chose. C'est le gourou un peu, même si bon...
C'est le seul ?
Non, c'est pas le seul. Il a des disciples, mais c'est lui le boss. C'est lui le boss des vampires, et toujours aujourd'hui. Et donc, je me renseigne comme ça, je tombe sur le site web du mec, et là, je vois qu'il y a quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire qu'on découvre un personnage qui explique qui il est, qui explique un petit peu son univers. Il a écrit des livres, le codex, le machin, avec toutes les règles. Et en même temps, le premier truc qu'il met sur son site, c'est le prix des dents qu'il peut poser. Donc.
Ça vaut combien des crocs, là, si je voulais m'acheter des crocs, moi, ça vaut combien ?
I charge about 99 euros.
99 euros, à peu près.
Le croc ? Non, les deux.
Ah, la blaguette.
Both of them ?
Yeah, for the pair.
Pour la paire, oui, absolument.
Ok, c'est bien, c'est bien.
Qui est ce mec qui est leader d'une communauté sous-culturelle qui compte quand même, qui a des adeptes, et tu verras, qui a des adeptes un peu partout dans le monde, et qui pose des crocs dans la boutique New Rock à Paris chaque année. Donc il fait des tournées comme ça.
Il y a une boutique, pardon ?
New Rock, la boutique New Rock, de chaussures New Rock. C'est des grosses chaussures en cuir et en métal en général, qui sont pas mal portées par les communautés métal, gothique, voilà. Et donc t'as Father Sébastien qui vient poser des crocs dans les boutiques, et ma copine de l'époque qui allait se faire poser des crocs, parce que pareil, elle avait les trucs dans les... Elle avait trouvé quelqu'un qu'on avait, et donc... Elle arrive un soir avec des petites dents de vampire.
Parce qu'elle l'a fait.
Elle l'a fait. Alors c'était en fait le type à la base a été prothésiste dentaire, donc il fait ça très bien. C'est un pro, il en a posé plus que n'importe qui, tu vois.
C'est-à-dire qu'au départ il était prothésiste et il a rencontré des gens qui lui ont dit faites-moi des dents. Et il a connu les vampires comme ça, hein. C'est ça, hein, Sébastien.
Yep.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais des crocs, c'est comme une interview. Je rencontre les gens, je les découvre, et j'ai fabriqué des milliers de crocs comme ça, et à chaque fois, on passe une demi-heure, une heure avec le client, et c'est comme ça qu'on connaît tout le monde.
Ouais. Tout part de cette pose de dents. Donc voilà, t'as ce type qui pose des dents.
Comment, c'est une question un peu intime à laquelle je vais te demander de répondre, c'est comment s'est passée la suite avec ta copine Adam.
Bah alors en fait, alors là il y aurait vraiment des histoires rigolotes à raconter. Elle les a enlevées au bout de 15 jours, ça lui ouvrait les... C'était très, très désagréable. Je découvre donc ce type, un ancien prothésiste dentaire qui se retrouve à poser des dents à New York, dans les salons de tatouage, les salons de modification corporelle, où voilà, on pouvait faire des trucs. Est né à New York cette espèce de courant dont les premières réunions se faisaient dans l'arrière-cour d'un dojo, enfin vraiment. Et la communauté vit tranquillement pendant une dizaine d'années, dans les années 90. Et à la fin des années 90, il se passe un événement étonnant. Il y a une journaliste qui fait un reportage sur eux. Et là, elle disparaît. La journaliste disparaît. Suzanne Weist, elle s'appelait, je crois. Et ça a une double... incidence sur la communauté, ça la fait connaître, parce que du coup, le reste de la presse s'empare du truc, dit « qu'est-ce que c'est que ça ? Suzanne Weist a disparu, elle enquêtait sur des gothiques très méchants. » Alors évidemment, il y a une disparition, elle est toujours disparue, donc elle est morte, hein, elle a été zigouillée. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps, elle faisait aussi un reportage sur la mafia russe de New York. Non, russe ou... Enfin, elle faisait un reportage sur une mafia...
Sur des gens dangereux.
Oui, sur des gens vraiment dangereux. On peut quand même penser que c'est peut-être pas les vampires qui sont responsables de sa disparition. Sauf qu'évidemment, pour les médias, pour les trucs un peu scandaleux, comme en plus ça marche très bien aux États-Unis, t'as des magazines très faits divers, c'est une grosse culture là-bas du sensationnel.
This is Don Henry.
I am a vampire. I do consume human blood. There is a real live community that exists not only within the states but also throughout the world.
Les vampires se retrouvent donc dans la lumière, ce qui est très mauvais pour eux, et tout le monde parle d'eux. Et donc eux, d'un côté, ils sont furieux, d'un autre côté, ils ont une visibilité. Et forcément, il y a toujours chez ces communautés, surtout qui sont quand même basées sur l'être, sur tout ça, un certain exhibitionnisme. Et les vampires commencent à jouer de ça. Et donc ça, c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, quand ils sont encore questionnés sur ce truc-là, ils partent dans des grandes... je ne peux pas en parler. Elle a joué avec le feu. Vous savez, quand on s'approche trop des vampires, parfois, il se passe des choses. En fait, les mecs sont gentils. C'est-à-dire qu'ils expliquaient qu'en fait... Ça les a sortis de la rue, ça les a sortis du trafic, ça les a sortis... C'est pas des gens qui vendent de la drogue, c'est pas des gens qui font du mal aux autres. Ils se battent pas avec d'autres gangs, ils se protègent. Ils protègent, eux, leur tradition, ils protègent, eux, ce qu'ils ont créé. Ils ont des rites, dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure, qui sont des rites extrêmes, mais qui sont des rites qui peuvent se rapprocher du fétichisme et compagnie. Mais c'est pas des gens qui font du mal aux autres.
Il y a quand même quelques histoires de disparition où une jeune femme s'est échappée par la fenêtre alors qu'elle était dans une baignoire avec des seringues, enlevée par des vampires, tout ça.
She was tied down and the suspect was putting a needle, a syringe, into her arm and draining her blood out into a beaker.
But why?
He said that he was a vampire and that he drank of the blood.
The nightmare continued for hours. In between feedings, the kidnapper kept her handcuffed in the bathtub. It was through the bathroom window, still handcuffed, that she managed to escape onto the nearby road. The victim in this case got away, but others have not.
Il y a eu deux autres faits divers, une famille qui a été zigouillée par... Mais en fait, il y a du monde et forcément, c'est des faits divers qui font écho. Je pense que c'est pas une secte de tueurs, tu vois. À mon avis, les vampires de Harlem, ils ont tué moins de gens que le gang d'à côté qui vend de la cam, tu vois. Très clairement, parce qu'ils n'ont pas une démarche de nuisance vers l'autre. Quand il y a un fait divers dans ce milieu-là, je pense qu'il fait écho de manière délirante parce qu'ils font trop flipper. Ils sont là, ils ont des couteaux, ils ont des dagues, ils ont des croix, des... Comment on appelle ça des... non,
tu sais, le bijou en argent...
Ils ont le bijou en
argent. Le bijou en argent des vampires, bon, ils sont vraiment flippants. Quand ils arrivent à 50 dans la rue, en plus, surtout ceux de l'époque, ils sont...
Ces vampires, là, cette communauté vampire, j'ai bien compris comment elle s'est créée, mais est-ce qu'ils boivent du sang ou pas ?
Est-ce que sucer le sang, c'est tromper ?
Oui, d'une certaine façon.
D'une certaine façon, oui.
Mais alors là, c'est un grand débat dans la communauté. C'est-à-dire que la doctrine principale dit « nous sommes des vampires psychiques », c'est-à-dire « nous nous nourrissons des autres par leur contact ». Voilà un des deux courants. Et t'as un autre courant qui s'est un peu radicalisé dans des cérémonies, des rites de passage, et où là, ils boivent vraiment du sang.
Quelles sont ces cérémonies, alors ?
Alors, on dit qu'on en parle. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été filmés, mais il y a eu quelques documents. Ça va être des cérémonies qui sont proches de cérémonies fétichistes, où par exemple, c'est des suspensions avec du piercing. Voilà, il y a un Français qui a été à New York dans cette époque-là, qui a fait ça et qui était proche de cette communauté.
Le truc qu'on te suspend par la peau. Là.
Ouais, on te suspend par la peau. Et donc lui, il se faisait ça, il se faisait des perfusions en même temps et il donnait son sang comme ça. Et il y avait certains d'entre eux qui buvaient son sang. Mais c'est quand même dans une démarche de consentement.
Oui, ça, on le forçait pas.
Et ça, d'ailleurs, ceux qui sont un peu plus communicants vers l'extérieur et compagnie, c'est super tabou. C'est-à-dire que tu leur parles de ça, ils sont là genre non, on boit pas de sang et compagnie. En fait, oui, il y en a qui en boivent, mais pas tous. Il y a plusieurs clans. Hein, il y a toute une organisation qui est une organisation très, très spécifique. Donc, il y a les leaders de camps, de clans qui se voient ensemble, mais qui sont amis, hein, qui sont plutôt... Ils se font pas la guerre, mais ils ont des rites différents, des rites d'initiation. Tu vas être les yeux bandés, à moitié nu. C'est pas détaillé, ça. Hein. C'est des trucs qui leur appartiennent et il convient aussi. J'ai pas envie de disparaître comme Suzanne Weiss.
De quoi parlent les vampires entre vampires ?
Il y a plusieurs choses. Au début, c'était des gangsters, c'était plutôt des gangsters, ça ne veut rien dire, mais c'était plutôt des gros bras. Donc à New York, ce n'étaient pas des gens forcément très...
Intellectuels.
Très intello, ouais. Et puis, Father Sebastian est parti vers Amsterdam, qui est une ville plus, déjà plus zen et qui était plus basée sur la culture, plus sur l'art. Et là, il y a eu une autre communauté qui était quand même une communauté complètement rattachée à celle de New York. Et d'ailleurs, ils se faisaient les grosses soirées tous ensemble et il paraît que c'était fabuleux, tu vois.
Mais là, quand ils se retrouvent sur les réseaux, tout ça, où tu les vois, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils parlent ?
Ils parlent de leur capacité à se nourrir de la vitalité des gens, à transmettre leur rapport à la mort, transmettre leur rapport au sang aussi, qui est un élément métaphorique fort chez eux. Voilà, le sang, c'est la vie, le sang, c'est l'engagement. Ils expliquent le don du sang aussi comme quelque chose de très... comme l'engagement ultime. Je me souviens d'une interview où l'un d'eux expliquait, en fait, même quand t'es enfant dans une amitié, le dernier moyen d'être ami, le dernier moyen de montrer qu'on est prêt à se donner à l'autre, c'est de faire un don de sang. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels, eux, ils vont s'exprimer maintenant. C'est une communauté subculturelle qui a ses références, et les références, c'est forcément les références des mythes, des vampires, et toutes ces choses, ça les passionne.
Aussi, la démarche de créer une autre culture à eux. Ils ont une manière de se marier, par exemple, qui est une manière vampire. Tu vas avoir trois anneaux, tu vas d'abord en mettre un pendant 3 ans, enfin, voilà.
Fini les allergies à l'ail. Désormais, les suceurs de sang traquent la chair fraîche sur les pistes de danse. C'est Dracula 2.0, son frotti-frotta avec les fétichistes du Shibari et les geeks des ténèbres. De quoi retourner comme une crêpe Bela Lugosi dans son cercueil.
Please be sweet and...
Est-ce que c'est une bande de teufards déguisés, non? Un peu.
Oui, de toute façon, je crois que ces cultures-là se développent dans la fête, se développent dans le côté un peu orgiaque, et c'est sûr que c'est des gens qui se retrouvent pour des moments de convivialité.
J'ai l'impression qu'eux particulièrement...
Qui vont agrémenter...
Quand ils se retrouvent, ils font quoi? Ils font des colloques ou ils font des teufs?
Ils font des teufs, ils font des teufs, ils dansent. Ouais. Mais il y a aussi un petit côté colloque, il y a des dîners des chefs de clan, il y a des prises de parole, il y a des... Si tu veux, c'est pas non plus juste des drogués qui font la teuf toute la nuit en finissant complètement... Voilà.
Ils ont... Exsangue.
Exsangue. Ils ont enrichi ça de rituels, de... Ils ont vraiment une spiritualité à eux.
C'est-à-dire Est-ce que ça se rapproche du satanisme?
Un peu, ouais. Il y a un peu de ça.
Moi, j'aime bien Satan. Bon, à l'origine, la plupart des lucifériens, c'est des philosophes, c'est des gens qui aiment bien la littérature. Et la plupart des lucifériens, ce qu'ils admirent, par exemple, dans la Bible satanique d'Anton LaVey, c'est quand il dit « quand on vous gifle, vous ne tournez pas l'autre joue ». En gros, c'est de résister, pas de se laisser humilier. Ça, je trouve ça éminemment honorable aussi, dont le vampire représentait une forme d'anarchie, une forme de libération, et non pas une forme d'esclavage, une forme de peur pour moi.
Il y a un peu de satanisme, mais eux, alors il ne faut pas leur dire ça, parce qu'ils vont te dire pas du tout. Mais eux, ils vont te dire que le vampire, il a quelque chose de proche du moine, un peu, où il va transmettre à tout prix ce qu'il a, parce qu'il n'a rien d'autre. Ils ont ce rapport aux choses. Alors ensuite, ils développent aussi la mythologie vampire, la mythologie du Ronin, qui est, tu sais, ce vampire qui ne peut plus que mourir pour revivre, et qui est une espèce d'ermite vampire, et qui est un vampire enfermé encore plus sur lui-même. Et ils vont développer tout ça, ils vont se réattribuer ces codes-là, tout en le mettant vraiment dans la vie. C'est-à-dire que le clan de Father Sebastian, il s'appelle... Attends, je t'ai pris le nom, je vais trop faire pour que ce soit joli. Il s'appelle... Ah merde, attends, ça m'a mis n'importe quoi. En gros, c'est vampire vivant.
Vampire vivant.
C'est vampire vivant. Parce que... Ils se revendiquent comme vivants, voilà. Ils disent pas on est des créatures mystiques, comme t'as d'autres courants dont on parlera peut-être une autre fois. Oui, les gens disent moi je suis un elfe, excuse-moi, je suis un elfe, un vrai elfe, juste tu le vois pas parce que bon.
Ça me plaît ça.
Oui.
C'est les deux vampires qui se croisent la nuit. Il y en a un, il est affamé à la recherche d'une goutte de sang, il croise son pote, mais il dégouline de sang. Du bon sang frais, celui goûte au bout du nez, mais il dit « Où est-ce que t'as trouvé ça ?» Et il lui dit « Tu vois le lampadaire là-bas » L'autre dit « Ouais, je le vois. » Ben, il dit « Moi, je l'ai pas vu.
» Raconte-moi, s'il te plaît, un vampire au quotidien.
Alors, le vampire Y au quotidien, déjà, il vit vampire tout le temps. C'est-à-dire qu'il est tout le temps sapé, il a des piercings, il a des tatouages, il fait flipper. C'est pas « tu t'habilles en vampire pour les soirées ». Il a des crocs, alors ça voilà, hein, les crocs c'est indispensable, ça fait partie du truc. Alors tous ceux qui ont des crocs ne sont pas des vampires Y, mais tous les vampires Y ont leurs crocs. C'est vraiment le moyen de reconnaissance, c'est quand même esthétiquement assez intéressant. Et donc à New York et compagnie ça passe plutôt bien, parce qu'à New York t'as quand même pas mal de gens un petit peu bizarres partout. Dans d'autres lieux, bon bah tu vois à Paris, les gothiques, on les regarde de travers quand même. Et ben il y a des vampires à Paris.
Il y a beaucoup de vampires en Europe.
Yes. Ah oui. A lot more than I thought.
Beaucoup plus que je ne pensais.
Ah oui.
Especially in France.
Notamment en France.
En France, oui.
Mais donc déjà, c'est la capacité à se marginaliser vis-à-vis d'une société au quotidien.
Est-ce que leur travail s'en ressent? Ils ont tous un boulot bien particulier ou...
Ils bossent sûrement dans les salons de tatouage, dans les... Tu peux pas vraiment... Avoir un bon, tu peux pas être employé de mairie, à mon avis, si t'es vampire, parce qu'on va juste stigmatiser, alors que c'est des gens qui sont tout à fait respectables et voilà, et c'est pas du tout des tueurs sanguinaires ou quoi, mais ils ont un esthétique et un rapport à la vie qui fait que je pense que ça les marginalise quand même énormément par rapport à une vie quotidienne classique.
Yeah.
On parle de vampires avec un Y. Est-ce qu'il y a des vampires avec un Y et un E à la fin?
Alors, il y a des femmes, absolument. C'est intéressant. Il y a des femmes, c'est des hommes et des femmes. Et il est reconnu que c'est plutôt paritaire comme, comme communauté. Il y a autant d'hommes que de femmes. Il y a des femmes chefs.
Est-ce que c'est encore une communauté gay?
En fait, c'est une communauté dans laquelle souvent les filles sont bisexuelles et les hommes hétéros. C'est des communautés qui sont quand même assez portées sur le cul. Forcément, à un moment, quand tu es dans le voilà,
c'est
dans
quand même le point commun de toutes ces communautés, à part les pranis, qui malgré leur nom, n'ont plus aucune énergie ça. Quoi.
Mais à part celles dont le but, c'est de ne pas baiser, en général, il y a quand même un rapport au cul qui est assez important.
Sur le plan sexuel, les vampires, c'est quand même très sadomaso, non, c'est très SM quand même, non, le monde des vampires, non?
We learned it from the French. C'est les Français qui nous ont tout appris quand même hein, sur ce chapitre. C'est les libertins français.
Est-ce que le développement des séries télé autour des vampires, il y en a pas mal, est lié à ce groupe ou c'est complètement extérieur ou c'est une rencontre
Je pense pas. En fait, le renouveau du vampire là de notre le tout dernier souffle qu'on a eu sur les vampires vient de Twilight, qui était une espèce de fanfiction qui est devenue
troublante aussi.
Pour Halloween, on s'offre même des petites fioles en pendentif pleines du sang de l'être aimé. Depuis True Blood, lancé en 2009, les vampires draguent même dans les séries télé. De Vampire Diaries à Twilight, Dracula se déguste en culotte courte et n'effraie plus les jeunes vierges.
Les vampires avec un Y sont des marginaux et se revendiquent vraiment comme ça. Je me souviens d'une interview que j'avais vue avec une des femmes qui fait partie des boss et qui est un peu leur responsable communication aussi, qui raconte son histoire. Elle dit « Voilà, moi je buvais du sang et puis à un moment... j'ai plus pu boire de sang parce que j'ai été hospitalisé, j'ai été malade, j'ai failli mourir, on m'a dit de faire mon testament, machin. Et puis je suis sorti de l'hôpital, je suis allé retrouver mon petit ami qui est mon donneur. Donc
ils boivent du sang. Oui.
Ah, de toute façon, il y en a qui boivent du sang, ça je te l'avais dit. Hein. Et simplement, t'en as d'autres qui disent, oui, mais ceux qui boivent du sang, ils sont fous, parce que principalement, ça les marginalise énormément. Faut penser que les années 90-2000, c'est les années SIDA, c'est les années quand même où on a eu des histoires sur les maladies liées au sang, qui font que la communauté qui arrive et qui dit « nous, on boit du sang », c'est chaud.
Est-ce qu'ils se rencontrent parfois au soleil ou est-ce que c'est toujours la nuit?
Alors c'est soit la nuit, soit dans des sous-sols ou dans des arrière-cours. Il y a vraiment un rapport au côté caché. Ensuite, à New York, il fait toujours jour, en fait, même la nuit. Donc il y a toujours cette esthétique du... Ils ne sont pas non plus dans la pénombre complète, mais ce sont des créatures de la nuit. Et ce sont des créatures de sous-sol... Il y a beaucoup de... C'est dans des boutiques, dans des salons de tatouage, dans des salons de piercing, dans ces lieux un peu alternes où vont se retrouver des sous-cultures différentes comme ça. C'est des créatures de la nuit.
On est très loin du Rocky Horror Picture Show qui pourtant explorait un côté vampire gay plutôt intéressant.
Que j'aime beaucoup, oui.
Creature of the night.
Mais ça, c'est une communauté aussi, la communauté du Rocky Horror Picture Show. Night.
Merci Guillaume.
Merci Vincent, à bientôt.
C'était une émission du Poste Général.